Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. La visite d'un ministre israélien d'extrême droite sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem au centre d'une réunion de l'ONU hier. Gros plan sur la situation économique du Maroc avec Abdeslam Seddiki, économiste et ancien ministre marocain de l'Emploi. Alors que Chems Eddin Hafiz a décidé de suspendre sa plainte contre Michel Houellebecq, qui s'est engagé à modifier ses propos contre les musulmans, l'Union des mosquées de France porte plainte contre l'écrivain Mohamed Moussaoui, lui demande que les paragraphes controversés cessent immédiatement d'être diffusés. Le gouvernement a franchi plusieurs lignes rouges avec la réforme des retraites, estime Léa Filoche, coordinatrice nationale de Génération. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Enfin, une enquête ouverte après une attaque informatique contre Charlie Hebdo, un piratage qui a lieu 8 ans après l'attentat qui a visé la rédaction de l'hebdomadaire. Une réunion du Conseil de sécurité sur Jérusalem, réunion convoquée après le déplacement de Itamar Ben Gvir mardi sur l'esplanade des mosquées. De très nombreux pays ont condamné ce déplacement effectué par cette figure de l'extrême droite israélienne, devenue ministre de la Sécurité nationale. Dans une déclaration, l'ONU appelle à éviter d'aggraver les tensions. L'ambassadeur de Palestine, Riyad Mansour, a lui accusé Israël d'avoir franchi une ligne rouge. En Turquie, les funérailles hier de Mir Perver, le chanteur kurde tué fin décembre à Paris. Le chanteur a été enterré en présence de membres de sa famille dans la province de Mus, des funérailles qui ont donné lieu à des incidents avec les forces de l'ordre. Gros plan sur la situation économique au Maroc, quel bilan pour l'année 2022, quelle perspective pour 2023 ? Entretien avec Abdeslam Seddiki, économiste et ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales.
L'économie marocaine, à l'instar des autres économies du globe, a été marquée par un certain nombre de chocs. D'abord, le choc Covid, qui n'a pas disparu totalement. Il y a toujours le spectre des virus et de la pandémie qui pèse sur nous, surtout avec ce qui se passe actuellement en Chine. Le deuxième choc est non moins gravissime, c'est le choc créé par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec ses conséquences, notamment sur les produits énergétiques et sur les produits alimentaires. Et le troisième choc, ça est peut-être il est spécifique au Maroc, il est propre au Maroc, c'est le choc de la sécheresse. Nous avons connu, durant la campagne agricole 2021-2022, l'une des sécheresses les plus sévères au cours de ces 20 dernières années. Gérer trois chocs à la fois, ce n'est pas facile. Et le gouvernement, maintenant, ça fait plus d'un an qu'il est installé. Bon, on peut dire qu'il a fait des efforts pour un peu atténuer l'impact de ces chocs, mais globalement, malheureusement, on en a pâti à tous les niveaux. D'abord, au niveau du taux de croissance, qui va se situer autour de 1%. 1,1 d'après la Banque centrale, 1,5 d'après le ministère de l'économie et des finances, mais on reste dans cette fourchette-là, ce qui est du reste insuffisant pour faire d'abord répondre aux besoins de la population et pour procéder à une répartition des richesses. Deuxième phénomène, c'est le phénomène inflationniste. Là, ça touche tout le monde pratiquement. On va boucler l'année avec un taux d'inflation de 6,7%. Ça, c'est le taux d'inflation moyen, mais ça varie en fonction des produits. Pour les produits alimentaires, ça dépasse 10%. Or, qui dit produits alimentaires, dit nécessairement les couches défavorisées qui ont un système de consommation basé essentiellement sur les produits alimentaires. Pratiquement 60% du budget, même plus, 60% du budget des classes pauvres est destiné à l'alimentation. Pour pratiquement, il ne reste plus rien pour les autres consommations à caractère culturel, pour la santé, pour ne parlons pas de la distraction et du tourisme. Donc voilà, troisièmement, c'est normalement, quand les prix des produits énergétiques et des biens alimentaires augmentent, cela impacte notre balance commerciale, qui est structurellement déficitaire, mais en 2002, le déficit va s'accentuer davantage, malgré le fait que nous avons quand même pu tirer profit aussi de la crise, entre guillemets, à travers, d'abord, notamment, le bon qu'on connaît, nos exportations en produits phosphatiers et dérivés, qui, pour la première fois, ils ont dépassé l'équivalent de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire 100 milliards de dirhams. Ça ajoute aussi un phénomène nouveau, plutôt positif, c'est le transfert de nos travailleurs immigrés, enfin de nos résidents marocains à l'étranger, qui ont quand même, cette année-là, ils vont transférer une somme qui dépasse de peu 10 milliards d'euros, ce qui n'est pas mal. C'est exactement 115 milliards de dirhams, soit l'équivalent de 11 milliards d'euros. Et la même chose, le tourisme a connu une certaine dynamique par rapport, bien sûr, à 2020, où il était vraiment au creux de la vague. Ça remonte à plus de 80 milliards de dirhams.
Et vous évoquiez la situation sanitaire internationale, les cas de Covid qui bondissent en Chine. Cette décision du Maroc de fermer ses frontières aux voyageurs venant de Chine, comment vous l'appréciez ?
Vous savez, nous, on a vécu quand même la période de Covid, quand on a fait le confinement, et nous ne voulons pas reprendre la même histoire. Nous voulons en finir. Alors si on ouvre, on s'aventure pour ouvrir nos frontières, ça risque de déborder, alors qu'on n'est pas entièrement sorti, on n'est pas en sécurité, même si les experts et les médecins nous disent que voilà, pratiquement, il n'y a pas, le risque est minime pour que la pandémie saisisse de nouveau, mais je crois par mesure de précaution, et je crois que c'est une mesure souveraine. Certains pays ont imposé de faire un test PCR à l'entrée. Nous, on a provisoirement, nous avons opté pour cette solution-là, de mettre provisoirement, on espère que ça ne va pas durer, le temps que la situation en Chine s'éclaircisse davantage.
Et sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, quelles sont les perspectives pour 2023, notamment avec le projet de généralisation de la protection sociale ?
Exactement. Oui, heureusement, le projet avance très bien, le projet de la généralisation de la protection sociale. Rien que cet année, malgré les difficultés, on a pu quand même intégrer dans le système de l'assurance maladie obligatoire 22 millions de personnes de plus, ce qui est vraiment un challenge extraordinaire. Cette année, l'année 2023, on va généraliser le bénéfice des allocations familiales pour intégrer 7 millions d'enfants nouveaux dans le système. Et l'année d'après, en 2024 et 2025, ça va être la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi et le système de retraite. Pour l'instant, le système avance. Bien sûr, il y a nécessairement des contraintes de mise à niveau de nos structures hospitalières pour qu'elles soient capables d'absorber les nouveaux arrivants, tous les clients, tous les malades potentiels. Mais nous avons également, je crois que c'est le cas général, même en Europe, nous avons un déficit énorme au niveau des médecins et au niveau des infirmiers, c'est-à-dire tous les personnels hospitaliers. Ça, on est en train d'accélérer un peu la formation des médecins. Nous avons multiplié le nombre de facultés de médecine. Mais ce genre de solution-là, enfin, ce genre de problème, ne se résolvent pas sur 2 ou 3 ans. Il faut, je crois, au moins une période de 5-6 ans pour voir les résultats de tous ces efforts-là. Bien sûr, sur le plan social, nous avons un problème de chômage. Je crois que là aussi, c'est normal parce que nous avons une structure démographique où il y a une grande partie de jeunes et notre économie n'arrive pas à assurer suffisamment d'emplois pour absorber tous les centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il y a quelques années, l'immigration jouait le rôle de soupape de sécurité. Malheureusement, maintenant, l'immigration se tasse. Il n'y a plus pratiquement d'immigration, notamment, surtout l'immigration qui n'est pas, la main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Mais notre pays a besoin aussi de retenir sur place des personnes qualifiées parce qu'on en a besoin pour notre développement, pour mieux encadrer les secteurs de pointe, les secteurs d'avenir. Mais grosso modo, bien sûr, la situation en 2023 est tributaire de 3 inconnues, 3 incertitudes. La première, c'est l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, personne ne peut savoir quand est-ce que cette guerre prendra fin. Il n'y a pas un organisme, il n'y a pas un pays qui peut prédire, voilà, cette guerre prendra fin à telle date. Maintenant, ça fait bientôt un an qu'elle est en cours. Rien ne se profile à l'horizon. Deuxième incertitude, c'est la situation chez nos partenaires, notamment dans les pays de l'Union européenne. Je constate que l'Union européenne est en passe de tomber dans une situation de stagflation, c'est-à-dire avec une récession, une inflation, ce qui n'arrange pas la situation au Maroc. Et la troisième incertitude, c'est la situation naturelle, la pluviométrie. Bon, cette année, on vient d'avoir un niveau de précipitation suffisant, mais pourvu que ça dure, et comme vous le savez, au Maroc, l'adage de l'IOT, il est toujours d'actualité, gouverner c'est pleuvoir. Chez nous, quand il pleut, beaucoup de problèmes s'arrangent, mais quand il ne pleut pas, c'est difficile.
Abdeslam Sediki, économiste et ancien ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, il répondait à François-Xavier de Calonne. Charlie Hebdo a porté plainte après le piratage de son site internet. Cette attaque informatique a lieu 8 ans après les attentats contre la rédaction du journal satirique. Cette semaine, l'Iran a par ailleurs protesté contre des caricatures publiées par Charlie sur le régime iranien, caricatures considérées comme insultantes par Téhéran. L'affaire Welbeck, après une rencontre avec l'écrivain, le recteur de la grande mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, a décidé de suspendre la plainte qu'il avait décidé de déposer à la suite de ses propos visant les musulmans, des propos publiés par la revue Front Populaire. L'écrivain s'est engagé à rectifier ses propos dans le livre qui reprendra l'interview. Mais Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, ne veut pas en rester là. Il porte plainte contre Michel Welbeck pour que cesse immédiatement la diffusion de ces paragraphes qui, selon lui, portent atteinte à la dignité des citoyens français de confession musulmane. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Léa Filoche, coordinatrice nationale de Génération, adjointe de la maire de Paris. Elle évoque notamment la réforme des retraites dont le détail sera annoncé mardi. Léa Filoche.
En vérité, il y a plein de lignes rouges dans la manière dont aujourd'hui le gouvernement conçoit la retraite. La retraite, c'est un droit. C'est un droit à partir du moment où on a travaillé toute sa vie, on a cotisé pour cela. Et c'est un système qui fonctionne plutôt bien parce que c'est un système où aujourd'hui, celles et ceux qui sont actifs aujourd'hui cotisent pour celles et ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Donc c'est plutôt un système, pour le coup, de circuit court et qui démontre depuis plusieurs décennies maintenant son bon fonctionnement pérenne. Là, en vérité, ce qui est tenté par le gouvernement, c'est de d'abord, il y a un côté catastrophiste sur les retraites qui n'est pas vraiment réel et qui est plutôt fantasmé, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que le système fonctionne plutôt bien, mais par contre, qui veut s'appuyer sur ce système-là pour essayer de faire des économies ou en tout cas d'aller chercher de l'argent dans un système qui fonctionne pour pouvoir le ponctionner et utiliser les sous de la retraite pour pouvoir payer et atteindre le déficit de 3% illusoire que la France essaye encore de maintenir. On ne peut pas aujourd'hui assumer que le système fonctionnant, il va falloir le revoir. Et donc, du coup, on essaye de nous faire croire tout un tas de choses diverses. Donc la question de l'âge de départ à la retraite, parce qu'on vit mieux, parce qu'on vit plus vieux, etc., est une fausse question. Si nous vivons mieux et si nous vivons plus vieux, c'est aussi parce que nous partons à la retraite à un âge correct. Et les 60 ans, pour nous, est la bonne base pour pouvoir avoir non seulement un droit à la retraite réel, en bonne santé, dans des bonnes conditions et sur un temps qui se veut le plus long possible, mais aussi pour permettre à toute la jeunesse de pouvoir entrer sur le marché du travail dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, non seulement près de la moitié des plus de 55 ans, en vérité, est inactif et attend la retraite, mais en plus, on a un taux de chômage dans la jeunesse qui est assez important. Et donc, du coup, tout ça, pour moi, on est vraiment dans du fantasme de la part de la droite, mais depuis des décennies, et de la part de ce gouvernement depuis le début de ce mandat, pour essayer de remettre en cause un système, encore une fois, qui a une juste vocation et qui est sain et pérenne.
Est-ce que cette réforme, Léa Filoche, risque de plonger dans la pauvreté les chômeurs de plus de 60 ans qui n'auront pas atteint l'âge de la retraite à 65 ans ? Est-ce qu'il faudrait aménager au moins les fins de carrière ?
Alors effectivement, il y a la question des fins de carrière, il y a la question des secteurs dont les métiers peuvent être aussi difficiles et douloureux, sur lesquels le gouvernement ne travaille pas du tout. Donc le gouvernement essaye de passer en force, en essayant d'ailleurs de créer une alliance avec la droite très tranquillement. Éventuellement, il utilisera le 49-3. En tout cas, il y a dans le projet actuel, dont on n'a pas tout le détail, hein, le débat ne fait que commencer. On ne voit pas venir tous les facteurs de pénibilité. On ne voit pas venir non plus toute la question des progrès technologiques qui, soi-disant, viendraient en aide aux travailleurs, alors qu'en vérité, on sait bien que les exosquelettes n'existent pas et que les maçons, à 60 ans, sont cassés par la difficulté de leur métier. Et donc tout ça n'est pas du tout pris en compte. Mais les Français le savent bien, d'ailleurs. En vérité, 42% de l'opinion qui se déclare prêt à manifester contre cette réforme et 53% qui sont opposés à un départ à la retraite progressif à 65 ans montrent bien que l'opinion, par ailleurs, n'est pas dupe des mensonges et des fantasmes de ce gouvernement et sera là aussi en lien avec Génération, mais aussi avec tous les syndicats et tous les partis qui s'opposent à cette réforme, de pouvoir se mobiliser pour éviter le pire scénario que le gouvernement essaye de nous faire avaler.
Vous souhaitez une grève massive, des manifestations dans la rue dans les jours qui viennent ?
On espère bien effectivement que, à l'appel des organisations syndicales, c'est pas les partis politiques qui donnent le rythme des mobilisations, on est bien sur un débat très syndical, mais effectivement, j'espère que la mobilisation sera très importante. On l'a déjà vu par le passé. Ça a déjà été le cas en 2010, en 2016. À plusieurs reprises, les gouvernements ont été obligés de reculer face à la pression de la rue et j'espère bien que nous pourrons arriver à obtenir la même chose dans ce premier trimestre et dans ce débat sur les retraites.
Léa Filoche, coordinatrice nationale de Génération, adjointe de la maire de Paris. Elle est l'invitée de Pluriel ce soir à 19h et 23h. Émission rediffusée dimanche à 17h. Le comédien Tahar Rahim sera le président de la cérémonie des Césars, une cérémonie qui aura lieu le 24 février. En 2010, le comédien avait remporté le César du meilleur acteur et du meilleur espoir masculin pour le film Un prophète de Jacques Audiard. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.